Chapitre 8. Ils ne parleront pas. À Fenestrel, le comte s'enferma chez lui et y resta longtemps. Il ne descendit même pas pour déjeuner. Dans l'après-midi seulement, il reparut, le regard voilé, le visage fatigué, toute sa vigueur abattue. Il se promena dans les allées du parc. À chaque instant, il s'arrêtait, la tête penchée, réfléchissant. Puis il reprenait sa marche lente. Il ne rentra que vers 4 heures. Il demanda Clotilde. On lui répondit que la comtesse était au salon. Quelques-unes de ses amies, les plus voisines, étaient venues. Ce meurtre causait une grosse émotion dans tout le pays. Mathis était venu dans l'après-midi également. Les amis étaient partis, Mathis seul restait avec Clotilde. Ils attendaient ce moment avec anxiété. Et vivement, Clotilde s'avança vers le jeune homme. « Ah, vous êtes allé à Maison Bruyère. Vous l'avez vu, lui ? Car il y est allé aussi. »« Oui, il a eu ce courage, je l'ai vu. Je l'ai même entendu, qui donnait à la justice certains renseignements de nature sans doute à l'égarer, à éloigner de lui les soupçons. » Et il ne paraissait pas ému. Très ému, au contraire. Je ne le perdais pas de vue. Je l'ai surpris à plusieurs reprises, essuyant la sueur qui coulait de son front, et une fois, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Ce fut au moment où Péternel, l'un des gardes de Barthelin, fit sa déposition. Et que racontait le garde ? « Oh, je ne sais pas. Il parlait à voix basse. Je n'ai pas entendu. » C'était bien grave, sans doute, car M. du Tillet le dévorait d'un regard ardent. Lorsque Paternel eut fini de parler, M. du Tillet poussa un profond soupir comme soulagé d'une angoisse. La déposition de Paternel représentait probablement pour lui un danger, et il venait de voir ce danger s'écarter de lui brusquement. Avez-vous réfléchi, vous, à ce meurtre ?
Oui, oui.
Et vous vous êtes demandé quel pouvait en être le motif ? Oui, bon, je n'ai rien trouvé. Vous savez que le docteur Renville a été volé, ou du moins une somme de 200 000 francs que votre mari lui aurait versée dans l'après-midi et que le docteur emportait a disparu. La comtesse appuya la main sur ses yeux. Je me perds au milieu de toutes ces horreurs. Je me demande si c'est lui, vraiment lui, que nous avons vu. Mathis haussa les épaules. Ah, s'il pouvait y avoir quelques doutes. Hélas, quel cauchemar. Mais c'était lui, ou c'était bien lui. Elle entendit des pas lents dans une allée et s'approcha d'une fenêtre. C'était Hubert du Tillet qui remontait vers le château. Avant d'y entrer, il s'arrêta et regarda longuement vers la vallée, vers le coteau, le dos un peu voûté, sous la fatigue de tout ce drame qui pesait sur lui. « Tenez, dit Clotilde, n'est-ce pas l'évocation de cette nuit qui apparaît de nouveau devant nous ?» Non, il n'avait pas été le jouet d'un rêve, et c'était bien la réalité qu'ils avaient vue. Ce cou musculeux, ses larges épaules, cette façon de porter la tête un peu penchée en marchant. Tout à coup, Hubert se baissa jusqu'à la bordure d'un massif pour examiner une fleur, et Clotilde tressaillit. Avez-vous vu ce geste des deux mains en avant ? Est-ce que ce n'est pas l'autre, celui de cette nuit, quand il se penchait sur le vieillard ? Les doigts liés autour de cette gorge haletante, et puis ces vêtements de velours commun, les mêmes, voyez-vous les mêmes ?
Oui, les mêmes.
Le comte avait cueilli une des premières roses précoces. Il l'avait passée à sa boutonnière. Ce n'était encore qu'un bouton dont le rouge apparaissait à peine entre les pointes vertes des feuilles. La comtesse frissonna. « Oh, ce sang-froid me fait peur, » dit-elle. Hubert montait les marches du perron. Il va venir sans doute. Observons-le. Il est impossible que devant nous, qui savons, il ne se trahisse pas. Restez, mon ami, ne vous éloignez pas. Seul devant lui, j'aurais trop peur. Le comte entrait. Il adressa un sourire à sa femme, et comme il n'avait pas vu Mathis à la poitrière, il vint lui serrer les mains. Il avait l'air profondément triste, mais aucune gêne en lui, aucun embarras. Ses yeux avaient la même franchise qu'autrefois, la même douceur, la même bonté. Mais était-ce possible, vraiment, était-ce possible? « Vous savez la triste nouvelle, Clotilde ?» s'informa-t-il. « Oui, le docteur est mort. Oui, on l'a assassiné, non loin de Maison Bruyère, quelques minutes seulement après que je l'ai quitté. On l'a assassiné pour le voler. » Elle trouva le courage de répliquer, rendue nerveuse par ce cynisme. « Cela est bien invraisemblable. Pourquoi ?» Ben parce que le docteur n'a pu être assassiné que par un misérable qui le connaissait, savait assurément que le vieillard se trouvait à notre fête et l'attendait sur son chemin, à son retour, la nuit. Eh bien, je dis qu'il est invraisemblable qu'on l'ait tué pour le voler, car la distraction du docteur Renneville était proverbiale dans le pays, et il n'est pas un paysan qui ne sache que le docteur sortait la plupart du temps n'oubliant de prendre sa bourse. Mais le docteur avait sur lui 200 000 francs. Comment le savez-vous? C'est moi qui les lui avais donnés. En paiement de la propriété de Grandchamp? Oui. Je croyais que cette propriété vous coûtait 300 000 francs. Oui, en effet, je n'ai donné qu'un acompte de 200 000. Je devais régler le reste demain ou après-demain. J'ai eu à la dernière heure quelques paiements à faire sur lesquels je ne comptais pas. Et cette somme a disparu, volée sans aucun doute. Mathis et Clotilde réfléchissaient. Un silence. Ce paiement imprévu d'une aussi forte somme, 100 000 francs, cela leur semblait bien singulier, bien invraisemblable. Clotilde va pousser plus loin ses questions, mais un regard de Mathis lui fait comprendre qu'elle commettrait une imprudence. Le comte reste absorbé. On dirait qu'il a oublié leur présence. Il tressaille comme se réveillant lorsque la comtesse demande « Et le coupable ?» Oh, l'opinion publique accuse une malheureuse Charlotte Lamarche. Et vous, que pensez-vous de cette accusation de l'opinion publique? Il ne répondit rien. Il vient à elle, près, très près, lui prend les mains. Son visage est si proche du visage de Clotilde qu'elle reçoit son haleine. Sur les traits du comte, tout à coup, une sorte d'angoisse. Et c'est en tremblant qu'il demande « Est-ce bien cela que vous vouliez dire ?» Car il a cru deviner une intention cachée dans l'exclamation de la comtesse. Et convulsivement, sans qu'il s'en aperçoive, sans y apporter de brutalité, ses doigts serrent les mains mignonnes avec tant de force qu'elle jette un cri. « Oh, pardon, dit-il humblement, je vous en supplie, pardon. » Elle considère ses doigts striés de marques rouges à la place où sont appuyées les bagues. Puis, ayant recouvré son sang-froid dans ce choc, « Non, je ne voulais pas dire autre chose. Mais vous-même, comment siez-vous donc? Est-ce que, par hasard, vous vous êtes imaginé que j'avais voulu vous accuser de ce meurtre ?» Et elle eut un rire faux, strident. Il lui semble qu'un voile s'étend sur la figure du comte. Elle a frappé juste, elle le sait, elle l'observe. Les paroles prononcées par le docteur à l'agonie lui reviennent à la mémoire. Misérable, malheur sur toi! Mon fantôme ne te quittera plus jamais. Jamais, ce sera ma vengeance. Il viendra te marquer au front le jour de ta vie. Écoute bien, le jour de ta vie où tu seras le plus heureux. Souviens-toi, au front, au front. Malgré son énergie, malgré son crime, bien que sa conscience soit muette, chacune de ses paroles a dû se graver au fond de ce cœur, dans la mémoire du misérable, pour toujours. Il n'est pas si avili, si gangrené, qu'il ne soit plus accessible au remords. Et ces paroles qui évoquent le cadavre à ses pieds doivent lui renouveler toutes les nuits la hantise affolante de son crime. Elle bégaye. Malheur sur toi, mon fantôme ne te quittera plus. Mais alors elle n'a pas la force d'en dire davantage. Lui n'a pas bien entendu, n'a pas bien compris. Seulement il voit en Clotilde une surexcitation extraordinaire et il s'inquiète. Qu'est-ce donc, Clotilde? Que dites-vous? Qu'avez-vous? Elle s'assied, anéantie, brisée par l'effort qu'elle a fait pour redevenir maîtresse d'elle-même, pour résister à l'entraînement de la révélation qui s'échappait de ses lèvres. Elle le rassure, elle se fait souriante. Et quand elle voit qu'aucun soupçon ne lui vient, son âme se partage en deux sentiments contraires. Elle regrette presque qu'il n'ait pas compris. Seul avec Matisse, quelques minutes après, il garde le silence longtemps. Puis Matisse, avec reproche, « Mais vous avez failli nous perdre !»« Oui, oui, j'ai eu un moment de folie, c'est vrai. J'allais tout dire. Bon, c'est fini, je suis calme. Je réfléchis. Écoutez-moi. Ce meurtre va rester impuni, car l'opinion publique accuse une innocente, Charlotte Lamarche. Et quelle foi la justice apportera-t-elle dans cette accusation de tout un pays? Nous le saurons bientôt. Mais il est probable, s'il faut en croire ce que disait hier le docteur Renneville, que cette malheureuse aura à se défendre contre l'accusation d'avoir empoisonné ou tué son enfant. Si elle était reconnue coupable de ce chef, qu'importe que nous laissions peser sur elle le poids d'un crime de plus. Elle n'en sera ni plus ni moins déshonorée. Oh, s'il s'agissait d'une honnête femme, éveillant quelque intérêt, non, je vous le jure, je ne laisserai pas la justice s'égarer, au risque de me perdre moi-même ou de vous perdre avec moi. Mais s'il s'agit de la pocharde, je me tairai. Et vous? Moi? Matisse avait fermé les yeux en proie à une horrible vision. C'était dans un sentier très ombragé d'un bois plein de broussailles. Le soleil n'y pénétrait pas. Et c'était là, toujours la nuit. Une femme, en proie à une surexcitation étrange, venait d'y apparaître, et sans qu'elle y prît garde, elle était suivie par un homme. À bout de force, elle s'affaissa dans le sentier, les paupières closes, une pesanteur sur le cerveau, les membres engourdis, envahis par une syncope qui la rendait inerte et comme morte. Et elle resta ainsi sans mouvement, la face tournée vers les cimes des arbres dont un léger souffle faisait frissonner les feuilles. Alors, enhardi, l'homme s'approcha. Et il dit à demi-voix, avec un sourire de convoitise cruelle, « Elle est à moi !» Voilà la vision qui renaissait aux yeux de Matisse. Et le crime accompli, l'homme s'enfuyait honteux et lâche. mais le crime laissé derrière lui accomplissait lentement une œuvre mortelle. Car c'était de cela qu'elle mourait, la pocharde, sous les sarcasmes publics. C'était de cet enfant d'inconnu qui justement était là pour donner une justification aux calomnies naissantes, pour lui crier, s'il lui prenait la fantaisie de se défendre. « Eh bien, et ce petit, tu n'y songes plus? Il n'est pas venu tout seul. » Elle en mourait. Et Matisse pensait que, sans l'enfant, Charlotte n'aurait pas été accusée de ce meurtre. Et Matisse pensait que la première cause de tout ce mal remontait à cet homme, à cet inconnu entrevu dans la vision du sentier plein d'ombre, au père de cet enfant. Il pensait aussi que cet homme avait été le premier à caractériser d'un mot d'argot le vice reproché à Charlotte, sans preuve, et à faire prendre un corps à cette accusation en la rendant populaire, la pocharde. Puisque Charlotte était innocente de l'adultère, nul au monde ne le savait mieux que lui. N'était-elle pas innocente aussi de ce vice et n'était-elle pas tout simplement malade? Alors, c'était une effroyable série d'erreurs et d'injustices. Il pensait à tout cela et oubliait de répondre. Clotilde demanda pour la seconde fois, « Et vous, mon ami, parlerez-vous ?» Il releva les yeux, des yeux incertains, inquiets du mystère honteux de son âme, sur cette femme élégante qui était à lui, qu'il avait aimée. Il vit, s'il parlait, s'effondrer cette vie et sa propre vie. Il avait l'âme vulgaire et le cœur lâche. Alors il dit sourdement, « Je me tairai ».